27 right, wind 250 degrees, 1
clear.
Clear.
Green. SL.
Hey, salut à toi et bienvenue. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode du podcast de l'expérience Shiban. L'expérience Shiban, si tu nous découvres, c'est un podcast aéro où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés de machines volantes. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère tous que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Salut à toi et bienvenue sur cet épisode hors série de l'expérience Shiban. Au mois d'octobre, nous avons été invités au musée toulousain Aéroscopia dans le cadre de la Fête de la Science pour parler de l'aviation de demain. Et durant ces deux journées, Tom et moi-même, Seb, avons tenu un plateau radio pour interviewer en live 6 personnes qui réfléchissent et travaillent à l'aéronautique du futur. Comme c'était le cas la dernière fois que nous sommes allés à Aéroscopia pour faire des interviews en live, nous nous sommes répartis les discussions avec Tom. Tu entendras donc deux voix différentes, la mienne et celle de Tom, pour animer ces épisodes. Ces formats plus courts et un peu différents seront diffusés les 15 de chaque mois entre janvier et juin 2023. Pour les premiers du mois, on reste sur le format classique. Petit disclaimer, nous ne disposons pas, dans l'équipe de l'expérience Shiban, des connaissances et des compétences techniques pour juger de la faisabilité de ce dont nous parlent nos invités. L'idée est de transmettre les messages de personnes qui façonnent le futur de l'industrie et de laisser la parole à ces experts dans leur domaine. Nous ne prenons donc pas la responsabilité de l'exactitude technique des informations transmises, notamment sur les sujets les plus poussés et encore relativement incertains à ce jour, comme celui des avions à hydrogène. Allez, c'est parti pour cet épisode de l'expérience Shiban enregistré à Aéroscopia lors de la Fête de la Science au mois d'octobre 2022. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette interview en live de Didier Esten, pilote d'essai d'avions légers électriques et hybrides maintenant. Alors, un petit mot avant de commencer cette interview sur le podcast pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas encore. L'expérience Shiban, c'est une petite équipe de pilotes, de journalistes, de créateurs de contenu et tout simplement de passionnés d'aéronautique. Et on publie depuis environ 2 ans un podcast où on interview des aviateurs et des aviatrices, plutôt dans l'opérationnel, qui ont des histoires souvent très intéressantes à nous raconter. Mais on essaye aussi d'élargir un petit peu les profils de nos invités. Au-delà de ça, on prépare aussi des formats vidéo que vous découvrirez sur notre site internet xpshiban.com dans les prochaines semaines et les prochains mois. Pourquoi on est là aujourd'hui ? On est présent ce week-end à Aéroscopia sous l'aile de l'A300 pour animer plusieurs lives, plusieurs interviews de personnes qui travaillent à réinventer l'aviation de demain. Alors évidemment, à Toulouse, on est gâté. Hein. Il y a pas mal de gens qui travaillent à ça, qui travaillent dans l'aviation en général, qui travaillent dans l'aviation du futur. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour leur donner la parole, pour qu'ils parlent de leur projet. Donc voilà, maintenant il y a un petit peu plus de contexte. On va, sans plus attendre, tenter d'en savoir un petit peu plus sur les avions légers hybrides électriques avec Didier. Alors bonjour Didier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es donc directeur technique, cofondateur et pilote d'essai chez Volta Aero, une entreprise, qui conçoit et qui fait déjà voler des avions légers hybrides. En tout cas pour le moment, le Cassio 1, on en reparlera un petit peu plus tard. Au-delà de ça, tu as un parcours très riche de pilote qui a débuté en 79 par un PPL en aéroclub et tu as volé sur plusieurs machines qui, on pourrait dire, sont en avance sur leur temps finalement. Alors aujourd'hui, l'aviation n'échappe pas à la règle et a besoin de se décarboner. On pense peut-être plus facilement à l'aviation de ligne, mais l'aviation légère a également besoin de prendre ce tournant et de mettre au point des technologies pour ce faire. Et on va parler entre autres de ça aujourd'hui. Alors première question. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Tu es ce qu'on pourrait appeler de l'autre côté de l'Atlantique un self-made man, comme on disait au téléphone. tu n'es pas passé finalement par le cursus classique de tes pères pilotes d'essai, mais tu es aujourd'hui pilote d'essai sur un avion presque du futur, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé à voler, à dessiner tes propres avions dans les années 80 et à aujourd'hui devenir pilote d'essai sur des avions aussi exceptionnels que l'IFAN et le Cassio?
Bon, j'ai dû être un peu aidé parce que mon père était pilote dans l'armée de l'air, donc j'ai quand même été un peu bercé dans le milieu de l'aéronautique dès le départ. Et c'est un milieu qui m'a attiré. Quand j'étais petit, je faisais des maquettes d'avions, des maquettes radiocommandées un peu plus tard. Et puis, je suis passé au pilotage en aéroclub, comme beaucoup de gens. Et là, le premier grain de folie est arrivé assez vite, puisque j'ai eu envie de construire un avion. Donc, j'ai dessiné, j'ai construit, j'ai fait voler mon premier avion en 83. Tout était raté, le dessin, la construction et même le vol, parce que j'étais trop jeune pilote pour avoir l'expérience nécessaire. Et donc, j'ai accumulé tellement d'erreurs que ça m'a appris beaucoup, puisque quand on est encore vivant après un truc comme ça, c'est qu'on a appris quelque chose. Et j'ai continué dans cette voie avec, par le biais de l'aviation légère et ultra légère, qui était naissante à l'époque dans les années 80 et qui permettait beaucoup de fantaisie et de développement, avec une très grande liberté, ce qui m'a permis de créer plusieurs machines qui petit à petit étaient plus abouties, de rencontrer beaucoup de gens dans le milieu avec un grand savoir qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, et d'arriver petit à petit à développer des machines plus complexes, plus intéressantes, à commencer par notamment le cri-cri électrique.
Et donc, pour rappeler certains de tes projets, en commençant par le cri-cri électrique, comme tu viens de le dire, que tu as fait voler déjà en 2010, si je ne dis pas de bêtises, tu as ensuite volé sur l'IFAN d'Airbus. Alors, je vais rappeler un petit peu les puissances aussi de ces avions. On va voir que ça monte en puissance, littéralement. Le cri-cri électrique, c'était 20 kW par 4 petits moteurs électriques. En 2013, l'IFAN avec Airbus, 60 kW, avec l'avion avec lequel tu as traversé la Manche, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Ensuite, là, en ce moment, tu voles avec le Cassio 1 par Volta Aero. Et là, on change un petit peu de technologie, au moins en partie. C'est un avion hybride. Il y a un moteur thermique, aussi un moteur électrique. Et dans la société que tu as cofondée, Volta Aero, vous allez aussi sortir le Cassio 330, pardon, Cassio 480 et Cassio 600. Et le nombre qu'on retrouve, c'est la puissance de l'avion. Ça fait une orientation très claire que tu as prise vers l'avion électrique, vers l'avion hybride. Et c'est, si j'ai bien compris, ta vision de l'aviation légère du futur. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Pourquoi est-ce que tu penses que les avions hybrides sont l'avenir de l'aviation légère? Et comment ça marche techniquement un avion hybride?
Alors, en fait, j'ai bien sûr commencé par l'électrique et j'ai commencé très modestement, puisque le cri-cri avait besoin de très peu de puissance. Le cri-cri d'origine vole avec 22 kW, donc on a installé 22 kW sur l'avion en électrique. Donc c'était la logique voulait que ça ne puisse que voler. L'avion était bien né, puisque c'est Michel Colomban qui l'a dessiné. Le problème à l'époque, c'était déjà les batteries. Et en fait, le premier projet sur le cri-cri, je l'ai fait en 2004. Mais à l'époque, on s'apercevait qu'on pouvait voler peut-être 13 minutes au maximum.
Ah oui.
Ce qui était quand même relativement ridicule par rapport à l'énergie qu'il fallait dépenser et l'argent qu'il fallait mettre dans ce projet. Donc je l'avais un peu abandonné. Et en 2009, il est arrivé sur le marché des batteries pour le modélisme électrique. Et ces batteries étaient déjà c'était des lithium polymères à l'époque, mais elles étaient abordables en prix. Elles existaient en quantité. Et en refaisant les calculs que j'avais fait en 2004, je me suis aperçu qu'on pouvait refaire voler l'avion, mais cette fois-ci, au moins 25 minutes. Donc ça devenait quelque chose de suffisamment probant sur un petit avion comme celui-là pour faire de la voltige. 25 minutes, c'était largement suffisant. Et le projet est parti comme ça. Et c'est comme ça aussi que la génération des avions dont tu viens de parler a existé. Pourquoi ? Parce que à l'époque, il fallait de l'argent, malgré tout, pour faire le cri-cri. J'en avais pas, donc je suis allé à la chasse, entre guillemets. Et pendant cette chasse, j'ai rencontré Jean Botti d'Airbus Industrie. Enfin, c'était EADS Innovation Works à l'époque. Et donc, en 2009, EADS s'intéressait déjà à l'aviation du futur et à ce qu'on pourrait faire avec des avions moins polluants. Et tout a commencé à partir de ce moment-là, en tout cas dans l'aviation électrique et pour moi.
Et pourquoi du coup tu es passé maintenant dans la société que tu as cofondée à l'aviation hybride ? Pourquoi finalement l'aviation électrique n'apportait pas finalement les réponses aux problèmes qu'il faut résoudre aujourd'hui dans l'aviation légère ?
C'est pas compliqué, il n'y en a qu'une réponse à ça, c'est les batteries.
Ouais.
Aujourd'hui, quand on a commencé avec le cri-cri, l'équivalent d'un 1 kg d'essence, pour avoir l'équivalent d'un kilo d'essence en batterie, il fallait 30 kg de batterie. Aujourd'hui, on est plus proche de 20 kg de batterie pour un kilo d'essence. Demain, on sera proche des 10 kg, mais on ne sera jamais à la parité, absolument jamais. Donc ça veut dire que dans un avion électrique, on va emmener, on pourrait emmener la même énergie que dans un avion thermique, mais avec une masse et un volume beaucoup plus importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand on se pose, l'avion est toujours aussi lourd qu'au décollage. Il n'y a aucun délestage. Et évidemment, c'est un peu plus compliqué quand on fait la synthèse, parce que le rendement d'un avion, un gros avion, un avion de ligne, plus qu'un avion léger d'ailleurs, il augmente en fonction de sa consommation, puisque son poids diminue.
Parce qu'il s'allège.
C'est pas le cas en électrique. Alors ça, c'est la première réponse que je peux te donner. La deuxième, c'est de dire que quand on veut, toujours à cause des batteries, quand on veut faire des parcours plus longs, eh bien, il faut trouver une autre source, parce que les batteries étant très lourdes et avec un rapport énergétique faible par rapport à l'essence, le cumul des deux sources d'énergie permet, pour l'instant en tout cas, de pallier à ça. Donc on peut avoir un avion avec une partie du vol électrique et le reste, pour les vols longs, du carburant, je dirais fossile pour l'instant, mais bien entendu, peu à peu, on se dirige vers du carburant SAF, qui sont des carburants qui économisent en gros 65% de résiduels CO2. Donc ça va dans le bon sens aussi.
Et donc, tu parlais d'utiliser le moteur électrique pour une partie du vol, d'utiliser le moteur thermique pour une autre. Comment se fait la répartition, notamment sur l'avion sur lequel tu voles en ce moment, le Cassio 1 ?
Alors actuellement, elle se fait manuellement, mais elle sera automatisée, bien sûr. Actuellement, je peux choisir, et je le fais très souvent, de décoller, de rouler, de décoller, de monter en vol électrique pur, jusqu'à à peu près une altitude de sécurité de 1500 pieds. Et à partir de 1500 pieds, je permute et je bascule vers le mode thermique pour pouvoir faire le reste de la montée et le palier. Et quand j'arrive sur un autre terrain, je repositionne la commande sur le mode électrique. Et j'atterris, je roule et je viens me parquer en mode électrique. Voilà, c'est la philosophie du vol aujourd'hui, elle est comme ça.
Et donc, ça apporte un gain en émissions CO2, j'imagine. Est-ce qu'on arrive à le chiffrer à peu près déjà sur cet avion d'essai, finalement, qu'est le Cassio 1, le fait de faire le décollage et l'atterrissage en électrique ?
Alors, on y arrive assez facilement, parce qu'en vol d'essai, on a des procédures particulières. Par exemple, je pèse l'avion avant le décollage et je le pèse à l'arrivée. Et donc, en fonction du taux d'hybridation, j'appelle le taux d'hybridation, c'est ce que j'ai mis comme puissance électrique par rapport à la puissance thermique. En fonction du taux d'hybridation, la consommation spécifique de l'avion est différente. Et quand on pèse l'avion au retour, on voit exactement quel pourcent... Sur un vol de même type, évidemment, il faut comparer les vols comparables, on arrive à comprendre... Aujourd'hui, sur un avion comme le Cassio, qui n'est pas un avion optimisé, c'est une modification d'un avion existant, on arrive à, suivant les vols, entre 14 et 28% d'économie. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui va, grâce à ce qu'on fait en expérimentation, être plus pertinent dans l'avion futur. Là, on a beaucoup de pertes, l'avion traîne beaucoup. Le but de cet avion n'était pas de faire une performance, c'était de démontrer et d'apprendre à faire fonctionner un système hybride. C'est ce que nous faisons depuis 3 ans.
Et donc, on parlait du gain en carburant et donc en émissions, notamment de CO2. On imagine aussi qu'il y a un gain sonore qui est énorme, parce qu'une grosse pression qu'il y a sur les aéroports, sur les aérodromes, on va dire, c'est le son, les riverains autour. Là, en moteur électrique, j'imagine que vous gagnez pas mal. Il y a des valeurs à peu près pour ça, au moins des ressentis des gens autour.
Oui, alors il faut en même temps être très honnête. Aujourd'hui, sur un avion, ce qui fait le plus de bruit, c'est pas le moteur, mais c'est l'hélice. Donc, effectivement... On a déjà chiffré et mesuré des gains avec l'avion en mode thermique et en mode électrique. Et ces gains sont relativement importants. Mais la plus grosse performance va venir des nouvelles générations d'hélices. Mmh. Parce que les générations de moteurs électriques existent aujourd'hui. Nous, on travaille avec Safran, ils savent très bien faire des moteurs électriques. Le moteur ne fait absolument pas de bruit, hein. C'est pratiquement inaudible quand on passe. Donc, il ne reste que le bruit résiduel de l'hélice. Or, aujourd'hui, une hélice, eh bien, aucune hélice aujourd'hui dans le monde n'est faite pour travailler en mode électrique. Donc, on est en train tous de travailler sur le fait de réduire la vitesse de rotation de l'hélice, qui est un facteur de nuisance très, très importante, et de modifier ce qu'on appelle l'aérochef, c'est-à-dire la formule aérodynamique des pales, le nombre de pales, pour également travailler sur le bruit. C'est quelque chose qui se fait depuis 3-4 ans. Beaucoup de gens travaillent là-dessus. Mmh.
Et donc tout ça, vous le faites sur la plateforme, l'avion, le Cassio 1. Alors c'est un avion hybride basé à la base sur un Cessna 337, un push-pull, donc avec une hélice à l'avant qui tire et à l'arrière qui pousse, on va dire. Comment est-ce que vous l'avez modifié pour atteindre la puissance de 600 kW en hybride et combien de temps ça vous a pris? Est-ce que c'était un gros challenge?
Oui, c'était un gros challenge. En même temps, c'est un avion que j'ai choisi parce que je connaissais bien, j'avais beaucoup volé dessus avant. Il avait plein de qualités. Une de ses qualités, c'est qu'il est très solide. C'est un avion qui a été construit à plus de 3000 exemplaires, qui a servi pendant la guerre du Vietnam notamment, et qui est donc à la base qui était bien né, qui était plutôt fait pour être utilisé par les militaires. Et donc c'est une plateforme facile à trouver. La deuxième raison, c'est qu'il a la particularité de pouvoir être démonté au niveau de l'extrado de la voilure pour accéder dans la voilure, ce qu'ont très peu d'avions dans le monde. J'en connais pas d'autres, mais il y en a peut-être d'autres, mais je les connais pas. Et la troisième raison pour faire notre plateforme, c'est qu'effectivement, comme tu l'as fait remarquer, il avait un moteur devant et un moteur derrière. Et nous, on savait très bien qu'en modifiant l'avion en hybride et en mettant le moteur hybride derrière, il fallait compenser le poids du moteur avant. Or, comme on avait besoin de mettre des batteries, on a compensé le poids du moteur par des batteries. Donc, en fait, la plateforme se prêtait extrêmement bien à notre besoin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet avion, il va encore voler longtemps, parce qu'il est en bon état et que la modification fonctionne.
Et un des buts de cet avion, c'est de préparer justement les modèles à venir de Volta Aero, les Cassio 330, 480 et 600 dont je parlais. A priori, ils seront certifiés en CS23, c'est une réglementation de certification qui existe déjà. Est-ce que cette réglementation est prête pour des avions comme ça, des avions hybrides, électriques, ou alors est-ce qu'elle doit être adaptée? Est-ce que vous y travaillez?
Elle n'est pas totalement prête, elle est en cours d'élaboration. On est quelques-uns en France, en Europe, à travailler avec l'EASA sur l'élaboration des nouvelles normes. Faut savoir que ce qui effraie aujourd'hui les services publics, ce sont les batteries. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'exemple de quelques rares exemples d'avions qui ont pris feu. La batterie, c'est quelque chose qui est assez complexe à gérer. Et donc, ils sont dans une position d'écoute, d'attente, de surveillance de ce qu'on peut proposer. Et personne dans ces services n'ont de référence antérieure puisque ça ne s'est pas fait avant.
Donc est-ce qu'au final vous êtes aussi un petit peu acteur de la réglementation qui est en train de s'écrire? Ils écoutent ce que vous avez à leur dire et est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur ce que l'EASA est en train d'écrire comme future réglementation pour ces avions-là, ou est-ce que vous devez batailler? En gros, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment difficile ou est-ce qu'ils sont à votre écoute et ils veulent que ça marche, ils veulent que ça aille dans cette direction?
Alors, clairement et honnêtement, ils veulent que ça marche. Ouais. Je pense que plus personne aujourd'hui ne pense qu'on peut contourner cette évolution, que ce soit d'ailleurs, on le voit bien dans l'automobile, hein, mais plus personne ne le pense. Donc ils sont prêts à tirer avec nous la chaîne dans le bon sens. Après, c'est difficile de passer certains écueils, certaines étapes, parce que les gens n'ont pas de formation à l'électrique. Ils découvrent et il y a un peu de crainte quand même derrière par rapport à la certification d'avions et des avions du futur. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les Boeing 757, il y en a eu quand même deux qui ont eu de 757 ou 67, je ne sais plus très bien. Il y en a deux qui ont pris feu parce qu'il y avait des batteries à bord. Et la seule solution qu'ils ont trouvée à l'époque pour conjurer le problème et faire voler les avions, c'est de faire ce qu'on appelle des sarcophages. C'est-à-dire des blocs en inox qui enferment les batteries. Donc le bénéfice de l'électrique et de la batterie était totalement perdu. Donc il faut absolument raisonner d'une autre façon. Et l'autre façon de raisonner, c'est celle que tous les constructeurs qui font de l'électrique mettent en œuvre maintenant, c'est de protéger plus au niveau de la batterie au moment de la conception, pour pas avoir à le faire a posteriori. Donc nous, on fabrique plus, on a fabriqué toutes nos batteries pour le Casio 1, l'avion qui vole actuellement, c'est nous-mêmes qui avons fait nos batteries parce qu'on avait un peu d'expérience avec le Cricri et l'Ifan, mais il n'est pas question de les fabriquer dans le futur. Et là, on s'est appuyé sur des fournisseurs de batteries. Il y en a peu dans le monde, mais il y en a quelques-uns maintenant.
D'accord. Et un peu plus concrètement, pour le pilote que tu es, comment ça se pilote un avion hybride électrique? Et après aussi, à quoi pourrait ressembler un complément de formation pour un pilote privé ou professionnel actuel?
En fait, on a un peu ouvert une brèche, une voie, et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un avion homologué dans le monde qui s'appelle le Pipistrel, le Vélis Aéro de Pipistrel, qui est un petit biplace électrique. On en a deux, nous, à l'aéroclub où je vole, et qui est une machine destinée à la formation de base. Ça fonctionne très bien. Évidemment, quand on prend les pilotes ab initio pour leur apprendre à voler sur cet avion uniquement, ils sont absolument pas surpris puisqu'ils n'ont rien connu d'autre. C'est plus compliqué quand on prend des pilotes déjà formés avion sur des motorisations classiques. C'est pas le problème du pilotage. Le pilotage est identique à un autre avion, que l'avion soit électrique ou pas électrique. Mais c'est la gestion de la puissance et de l'énergie. Et donc on réhabitue les gens à utiliser l'avion. En fait. Aujourd'hui, c'est une question presque éthique. Quand on roule en voiture électrique, on peut rouler absolument de la même façon qu'avec une voiture thermique, sans tenir compte de l'énergie qu'on a embarquée, parce que la voiture marche très bien. Mais un mauvais conducteur de voiture électrique, il fera à peu près la moitié du kilométrage qu'un bon conducteur pourrait faire en faisant attention à la façon de consommer son énergie électrique. Donc c'est quand même assez important, et en aviation, ça va être à peu près la même chose. La différence en aviation, c'est qu'il va y avoir des garde-fous, nous et les autres d'ailleurs, il y aura ce qu'on appelle des monomanettes, c'est-à-dire des commandes qui passeront par un calculateur et qui feront qu'on ne pourra pas demander une énergie excessive à une batterie qui ne pourra pas la délivrer pour protéger la batterie.
D'accord, donc les considérations sont au niveau de la protection de la batterie, la gestion de l'énergie. Absolument. Alors dans un moteur thermique aujourd'hui, c'est pas on n'y pense pas forcément, on affiche la puissance dont on a besoin et puis c'est tout.
Et dans un avion classique, jusqu'à la dernière goutte d'essence consommée, on a la même puissance.
Oui.
Alors que la batterie, elle a une variation de régime d'utilisation, et quand on est en fin de batterie, on n'a pas la même puissance qu'au début de la batterie. Donc il faut être quand même extrêmement prudent là-dessus, et ça va être résolu par de l'électronique, ça on sait très bien faire. Tesla le fait dans les voitures, toutes les voitures électriques ont ce système, donc on va le rendre tout à fait applicable à l'aviation.
Et là, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des modèles que vous développez, notamment le Casio 330 qui devrait être le premier à arriver. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet avion? Quelles sont ses caractéristiques, sa taille? Est-ce que ça va être un petit peu comme le Casio 1 que vous avez, deux hélices alimentées par des moteurs électriques, une avec un moteur thermique, ou alors tout va alimenter la même hélice? Comment ça va marcher? Quelle va être l'architecture de cet avion?
Oui, elle sera plus simple que dans le Casio 1. Que ce soit 330, 480 ou 600, il n'y aura qu'une seule hélice à l'arrière. Et cette hélice, elle sera drivée, elle sera commandée par un moteur électrique dans le premier cas et un moteur thermique, avec la capacité qu'on a déjà sur le Casio 1 de faire fonctionner et faire tourner l'hélice ou avec le moteur électrique ou avec le moteur thermique ou avec un mixte des deux. Ça, c'est déjà ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'on va réappliquer aux autres avions. Donc, au niveau du pilotage et de la conduite avion, il n'y aura qu'une hélice. La double motorisation sera, je dirais, très transparente grâce à la gestion électronique. D'accord. C'est pour ça que je parlais de monomanette. Et le pilote, en fin de compte, aura un comportement comme un pilote lambda. Il est évident qu'on sera formé sur l'avion. L'intelligence de la globalité du projet, c'est de dire que quand on vendra un avion, on vendra la formation au pilote en même temps. Il n'ira pas dans une école et on lui apprendra à piloter et à faire voler son avion en quelques heures, de l'ordre de, je dirais, 5 heures. Et il sera lâché sur son avion. De même qu'on fera une formation technique pour les mécaniciens de maintenance.
Et s'il y a une seule manette, si c'est un avion monomanette, est-ce qu'on aura le choix de faire le décollage qu'en électrique, par exemple, ou il y aura un mélange des deux tout le temps, le moteur thermique tournera tout le temps?
Alors, il y aura effectivement le choix, mais en même temps, pour simplifier l'utilisation, le but que l'on recherche, c'est que l'avion soit efficient au niveau des nuisances sonores et des nuisances de pollution. Donc ça veut dire qu'il faut décoller et atterrir en électrique quoi qu'il arrive.
D'accord.
Donc l'avion, la priorité de l'avion et sa genèse originelle, c'est d'être électrique.
Okay.
Et le groupe thermique, c'est un peu ce qu'on appelle un range extender, c'est-à-dire qui permet à l'avion d'aller loin, alors qu'en électrique, on ne peut pas aller loin aujourd'hui.
Okay.
Voilà.
Et est-ce que tu as une idée un petit peu du coût, en tout cas, est-ce qu'on pourrait comparer le coût de cet avion-là à ce qui se fait aujourd'hui déjà sur le marché en purement thermique? Par exemple, le Casio 330, si j'ai bien compris, ce serait peut-être l'équivalent un peu d'un Cirrus, le 480 peut-être d'un DA62, quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait plus ou moins cher à l'achat, plus ou moins cher à opérer?
Alors, oui, c'est comparable. Oui, c'est malgré tout un peu plus cher à l'achat, mais c'est pas considérable au niveau du prix d'achat. Et oui, c'est moins cher à opérer, effectivement. On a, dans le principe, le coût de maintenance en électrique est très faible. Parce que les batteries, on les surveille, mais elles fonctionnent ou elles sont en panne. Et entre les deux, il ne se passe rien. Il n'y a pas de moyenne sur cette fonctionnalité. Ça marche ou ça ne marche pas. Et les moteurs électriques, c'est pareil. Pour donner un exemple, on n'a absolument jamais touché un seul moteur électrique depuis qu'ils sont sur l'avion. Jamais. Parce qu'il y a une fiabilité totale dans l'électrique.
Et ils sont depuis combien de temps, du coup, sur l'avion? Depuis combien de temps?
Alors, les premiers moteurs, les Safran, depuis 3 ans.
Okay.
Et les moteurs MRAX qu'on a à l'arrière, depuis 2 ans.
Ok. Alors que sur un moteur à piston, on occupe un peu plus
quand
souvent.
Quand je parle en années, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut parler en heures de vol.
Oui, c'est vrai.
Mais en heures de vol de prototype d'essai, on est à plus de 135 heures d'essai aujourd'hui et on n'est jamais intervenu sur les moteurs électriques.
Okay. Alors qu'il y a des interventions, par exemple, toutes les 50 heures déjà sur les moteurs à piston.
25, 50 et 100 sur les moteurs thermiques, effectivement.
Ok, donc ça simplifie beaucoup là, un peu comme sur les voitures finalement. C'est un peu...
On vole avec un moteur de voiture.
D'accord.
Aujourd'hui.
Okay.
Et donc c'est hyper fiable.
Ouais, ok. Et ben, on se rapproche tout doucement de la fin de cette discussion. Je vais te poser une question un petit peu vague, mais voilà, on va voir ce que t'en penses. Mais à quoi va ressembler, selon toi, l'aviation du futur? Comment tu vois l'aviation de demain? Quelle est l'image que tu t'en fais dans ta tête, dans les modes de propulsion, les énergies utilisées, la quantité de trafic peut-être par rapport à aujourd'hui, etc.
C'est audacieux hein, comme question. Mon grand-père n'aurait jamais pensé qu'un avion électrique volerait un jour, même pas un avion.
Oui.
Donc,
c'est vrai.
Mais en fait, je pense que de la même façon qu'on a observé, qu'on observe une modification assez radicale dans le transport automobile, il va se passer la même chose dans le transport aérien. Donc, je doute pas que le transport aérien continue. Je suis arrivé à un âge où je verrai jamais d'avion de ligne électrique voler. Ça, j'y crois pas du tout. D'aviation hybride, même sur du plus gros tonnage, pourquoi pas? Oui, dans quelques années quand même, parce qu'aujourd'hui l'efficience des batteries n'a pas atteint une maturité telle qu'on puisse, comme je l'expliquais tout à l'heure, jongler entre 1 kg de carburant fossile pour 10 kg de batterie. On n'en est pas là, on en est même très loin. Donc ça va évoluer, il y a des travaux considérables qui sont au niveau des batteries. Le challenge au niveau des batteries, c'est également d'arrêter de taper dans les ressources naturelles de la planète et dans les terres rares et de trouver d'autres chimies. Et ça, il y a des laboratoires qui ne font que ça, travailler sur ces chimies de l'avenir, avec la possibilité de recycler des batteries quand elles sont arrivées en fin de vie. Donc, je crois en cette évolution. Elle va arriver, elle arrive tout doucement. Elle sera beaucoup plus lente qu'on veut nous le dire sur le plan journalistique ou événementiel. Elle sera beaucoup plus lente. En revanche, ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est une aviation plus régionale. On a en Europe à peu près 4000 terrains d'aviation. On a 600 aérodromes en France, pour la plupart avec des pistes très correctes, sans compter les pistes secondaires. Et donc, c'est quelque chose qui permet de faire de la liaison porte-à-porte avec des avions hybrides électriques sur des faibles distances, avec des faibles emports au niveau des passagers. Ce ne sera pas des grosses machines, mais qui permettent de désenclaver des territoires et de transporter des marchandises, de transporter des blessés. C'est quelque chose qui est tout à fait abordable dans les quelques années à venir, très rapidement.
Donc on garde une petite touche d'optimisme avec désenclaver les territoires avec des liaisons point à point. Mais pour les plus gros avions, effectivement, changer de mode d'énergie, de propulsion, ça va prendre du temps, comme tu le disais.
Oui, tous les constructeurs sont confrontés à la même problématique. Et aujourd'hui, ils font déjà de gros efforts, et notamment les motoristes, de gros efforts sur l'économie d'énergie. Et un avion de ligne aujourd'hui est extrêmement efficient au niveau de l'énergie embarquée par passager. Les aérodynamiciens travaillent sur des formules qui permettront de diminuer les traînées, donc les coûts d'exploitation des avions également par rapport à l'énergie embarquée. Et en plus, le volet dont on a parlé pendant quelques minutes est celui des nouvelles énergies qui seront embarquées. Et d'ailleurs, l'hybridation, quelle qu'elle soit, est la première application qu'on va voir dans les années à venir. C'est déjà en cours, même sur des avions plus gros.
Eh bien, on aura bien compris que l'avion hybride, c'est l'avenir. Merci beaucoup, Didier, d'avoir été avec nous sur le plateau de l'Expérience Shiban en direct d'Aeroscopia. Et voilà, c'est fini pour cet épisode hors série. Je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu de nous parler de leurs travaux qui les tiennent très à cœur et qui contribuent à forger ce que sera l'aviation à l'avenir. Un très grand merci également au musée Aeroscopia à Blagnac. C'est toujours un immense plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés du musée qui nous a accueillis, et je t'invite fortement à aller y faire un tour si d'aventure tu passes en région toulousaine. Pour finir, un dernier merci à nos contributeurs sur Tipeee qui nous permettent de continuer à pouvoir consacrer du temps à l'expérience Shiban. Voilà, à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, bon vol pour les plus chanceux, et en toute sécurité bien évidemment. Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un très bon moment en écoutant cet épisode de l'Expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tu peux également nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et surtout, et c'est très important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Ça nous permet de faire pas mal de choses. De couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et de continuer à explorer de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux nous faire un don ponctuel ou régulier sur notre Tipeee. Le lien est en description de l'épisode et sur notre site internet xpshiban.com. Je tiens à remercier nos contributeurs et contributrices sur Tipeee et celles et ceux qui nous envoient de gentils messages et nous suggèrent des invités. Sans vous, ce podcast n'existerait pas, ou en tout cas, il n'existerait plus. Et pour terminer, un gros big up à toute l'équipe qui travaille avec moi derrière ce podcast. Maxence, Marek, Victor, Ilia, Thibaut, Léa, Paul et Tom. Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion instructive, divertissante et inspirante.